Aliénor d'Aquitaine, la belle croisée de Louis VII. Un monde d'hommes, les croisades ? Pourquoi donc ? On va y trouver aussi des femmes, et pas n'importe lesquelles. Aliénor d'Aquitaine, par exemple. On ne dispose d'aucun portrait, d'aucune représentation d'Aliénor. Seuls les mots rendent compte de cette petite fille du troubadour Guillaume d'Aquitaine, et il semble qu'à elle seule, elle incarne une sorte de poème parfait qui serait aussi un hymne à la beauté. Selon les témoins de son temps, Aliénor surpasse en grâce, en intelligence, toutes celles qui l'approchent. Et ceux qui croisent son regard, les poètes réunis à la cour de Poitiers, les non-poètes aussi, y reconnaissent comme une source d'amour qui les trouble longtemps. Bref, elle est très, très belle, Aliénor d'Aquitaine. En 1137, elle a à peine 15 ans. Et qui devient cette année-là l'époux de ce brillant esprit, de cette perle rare, de cette beauté ineffable? C'est un jeune homme timide, né en 1120, fils de Louis VI le Gros et d'Adélaïde de Savoie, destiné à l'état clérical mais qui, à la mort de son frère Philippe, en 1131, va devenir le prétendant au trône de France, Louis VII. Peu doué pour l'exercice militaire, Louis est un tourmenté de l'âme. Cette caractéristique a sans doute été renforcée par son éducation auprès d'abbés austères et sévères. De sorte que, toujours triste, il conserve des habitudes, des réflexes et une façon de penser qui feront dire un jour à la belle Aliénor
« Je croyais avoir épousé un homme et non un moine. »
Devenu roi à 17 ans, en 1137, Louis VII déclare, le 25 décembre 1145, qu'il veut lui aussi se coudre la croix, c'est-à-dire partir pour la croisade. Sa décision suscite peu d'enthousiasme. Louis VII n'a guère l'apparence d'un chef de guerre. De plus, toujours confit en dévotion, ce qui ne l'empêche pas de consommer son mariage avec Aliénor qui donne naissance à deux filles, on l'a surnommé le pieux, comme Louis Ier, le fils de Charlemagne. Pourtant, la croisade, la deuxième du nom, va partir, mais à la différence des autres expéditions, les femmes sont autorisées à s'y joindre.
Prévôt des Juifs. Pieux à l'excès, sans doute. Triste, sûrement. Mais stupide, sûrement pas. Il est plutôt intelligent, Louis VII, sensible et éclairé. Beaucoup de ses initiatives en témoignent, notamment celles qu'il prend à l'égard des Juifs. À cette époque, l'usure était interdite par l'Église. Aussi, ceux qui avaient besoin d'argent s'adressaient-ils à des prêteurs juifs. Souvent, ils refusaient de rembourser l'argent qu'ils avaient emprunté, et les prêteurs n'avaient aucun recours. Pour pallier la malhonnêteté de ces emprunteurs, Louis VII crée une nouvelle fonction, prévôt des Juifs. Ils sont chargés de chasser les débiteurs de mauvaise foi.
Pourquoi les femmes partent-elles en croisade ? Parce que le roi amoureux ou prudent a demandé la permission aux évêques d'emmener Aliénor, sa belle épouse. Permission accordée. Les barons en font autant, si bien que c'est une croisade des plus caquetantes qui s'ébranle de messe le dimanche de la Pentecôte 1147. Toutes sortes de désordres vont se produire et se reproduire pendant le voyage vers Constantinople. Les croisés ES et croisés EES, qui traversent ici une acception accidentelle du terme, s'accordent des écarts dans la fidélité du couple avec tant d'allégresse et de conviction que les ecclésiastiques accompagnateurs en sont scandalisés. La chasteté a dû, elle aussi, être barrée d'une croix. Après avoir été reçus fastueusement à Constantinople, les croisés parviennent en Terre Sainte, près d'Antioche, en 1148. Et qui est là pour recevoir Aliénor ? Raymond. Oncle Raymond de Poitiers. Il est blond, il est beau, Raymond. Et forcément, puisque l'accueil se déroule non loin de la plage, il sent bon le sable chaud. Et puis, en quelque sorte, il est un peu légionnaire puisqu'il est à la guerre. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'Aliénor, pendant les 10 jours qu'elle va passer près de lui, s'abandonne à l'amitié très tendre qu'elle a toujours éprouvée pour cet oncle gai, drôle, plein d'esprit. Bref, un Aquitain qui lui donne la nostalgie de sa cour bien-aimée à Poitiers. Leurs affinités les auraient conduits, dit-on, à beaucoup plus. Ou plutôt, on ne le dit pas. Ceux qui relatent le voyage font une espèce de grève, parce que, prétendent-ils, la reine se comporte mal. Louis VII est humilié. En pleine nuit, il fait enlever Aliénor qui doit alors le suivre à Jérusalem. Et Raymond, comment finit-il? Tué l'année suivante, le 30 juin 1149, au cours d'une embuscade contre les Turcs. Sa tête est coupée et livrée au vainqueur dans un panier.
Parlez-moi d'amour, Ventadour. En 1124, un archer et une boulangère unissent leur destinée en Limousin. L'année suivante, un bébé tout chaud naît au foyer des deux parents ravis. Ils l'appellent Bernard. Ce bébé grandit, devient un jeune homme. On le remarque pour sa belle voix et pour les paroles qu'il compose. Peu à peu, il va devenir le troubadour à la mode. Ses airs deviennent des tubes de l'été, de l'hiver, de toute saison. Cet Aznavour des cours, ce Moustaki des chœurs, possède bientôt une telle renommée qu'il est appelé auprès d'Aliénor d'Aquitaine, qui adore l'entendre parler d'amour, lui dire des choses tendres qu'elle n'est jamais lasse d'entendre, au point qu'il la suit en Angleterre, à la cour d'Henri II. Mais, pris du mal du pays, il revient en France, à Toulouse. Il finira sa vie dans un monastère cistercien à Dallon, en Limousin. L'amour que chante Bernard de Ventadour est un amour de l'attente. Il ne peut être totalement assouvi sous peine de disparaître. Voilà pourquoi il rejette l'idée du mariage qui tue l'amour puisqu'il permet de combler le désir instantanément ou presque jusqu'à plus soif. Bernard ne se mariera pas, désespérant ses nombreuses groupies.
Au retour de Jérusalem, peu avant la mort de Raymond, les époux royaux regagnent la France en faisant bateaux séparés. C'est fini. Ils ne s'entendent plus. Ils ne se sont jamais entendus. Aliénor ne veut plus de ce mari indécis, mesquin. Et Louis en a assez d'une Aliénor sur laquelle tout le monde se retourne et que tous les hommes convoitent. Le mariage est annulé le 21 mars 1152. Le divorce n'existe pas à cette époque. Quelques jours plus tard, elle échappe à deux tentatives d'enlèvement. Deux barons voulaient la kidnapper pour l'épouser ensuite. Rien de moins.